Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Avec un casting de rêve, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là. Voilà. Là, c'est pas Génération After, là, c'est le Real Madrid. Voilà. C'est pas la Castilla, comme dirait Frère Herbel. Ah, mais c'est vrai. Tout à l'heure, je voulais vous faire écouter Christophe Galtier. Permet,
puisque tu parles, oui. Pardon, ça n'a aucun rapport, Gilbert, mais de saluer nos jeunes confrères qui ont travaillé sur le mercato, qui ont quand même cette énergie.
Fabrice Hawkins, notamment.
Par exemple, Fabrice, Rémi,
oui.
Arthur,
Rémi, c'est un autre.
Arthur, Nico,
qui ont quand même été au charbon pendant un mois pour nous abreuver d'infos et nous régaler.
Pour finir sur un Ziyech qui signe pas finalement. Ouais.
On est quand même suspendu à leur travail. Et après une Coupe du Monde déjà, vous avez été bien sur le pont. Bravo à eux. Il y a dans nos métiers, il y a quand même les producteurs d'infos, il y a ceux qui les utilisent. Puis après, bon, il y a les éditorialistes, mais gloire aux producteurs quand même, c'est eux qui permettent le reste.
Quelle leçon de management.
C'est comme dans la vie sociale.
Tu t'as vu ça, Daniel?
Ouais.
Prends-en de la graine.
C'est des équipes.
Voilà. Bravo, Stéphane.
Non, c'est gratuit, mais c'est sincère.
Merci donc à nos équipes, en l'occurrence. Alors oui, je voulais donc vous faire écouter Christophe Galtier qui parle des blessures de Sergio Ramos et Kylian Mbappé. On écoute.
Évidemment, ce sont deux joueurs très importants, que ce soit Sergio, Kylian, sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit après le match. Non, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais, on verra bien. Comme on joue tous les trois jours, voilà.
Voilà, confirmation de ce que disait Stéphane. Alors, pour être tout à fait précis, la pancarte sur Jean-Michel Aulas dans la manif, c'était « Aulas, 73 ans encore en activité, tu vois les dégâts, Manu ?» pour l'interrogation. Voilà. Ce qui lui permet de saluer aussi le travail des reporters de région qui eux aussi sont sur le pont pour les transferts.
T'as raison.
Le problème quand on donne des félicitations, c'est que si tu oublies un mec ou deux, direct ils flex.
Saluons tous ceux qui nous ont un brevet d'information sur les transferts.
Bon, Lyon, les gars, on y va. Bon, encore un triste match des Lyonnais. Les matchs passent et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. En fait, il y a une espèce de mélasse lyonnaise.
Tu es bien obligé de dire ce soir que bon. Ok, mais là, ils ont 250 occasions.
Enfin bon, à chaque fois, on dit ça. Sauf que ça fait plusieurs matchs que ça arrive. Donc, à un moment donné, tu peux pas simplement dire.
Non, ça fait pas plusieurs matchs que ça arrive. Non, c'est pas vrai. Tous les mêmes.
Les matchs récents, c'est ça.
Pas exactement toujours comme ça.
Ouais, rester sur une victoire.
Il y a les matchs où ils sont mauvais. C'est pas le même match contre Ajaccio. À la limite, ce soir, ils jouent presque mieux que quand ils gagnent à Ajaccio, où ils sont bousculés. Non, c'est pas exactement les mêmes matchs. Ce qui est récurrent, c'est la déception. C'est cette impression que l'équipe, de toute façon, elle va pas progresser et que même quand elle se crée des occasions, elle est pas foutue de mettre des buts, même contre les petits, qu'elle ne s'en sort pas justement contre les petits.
Non, mais
la saison, elle est foutue. Que le mercato, il est resté en travers de la gorge de tout le monde à Lyon parce qu'ils ont pris ils ont pris du monde, mais finalement t'as toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, que
les supporters
ils tournent la tête, ils voient que c'est plus beau ailleurs et que chez eux c'est tout gris. Donc il y a un négativisme qui a gangréné tous les supporters de l'OL qui en veulent à tout le monde, qui en veulent à la direction. Et j'ai presque envie de leur dire, juste titre, c'est très difficile de pas être déçu et de pas en vouloir à tout le monde.
Mais il faut qu'ils se regardent aussi dans la glace, les supporters lyonnais, parce que l'époque où leur club fonctionnait bien, et pas, les années Genesio, c'est pas si vieux, ils ont été à l'origine du départ de Genesio. Donc
C'est pas vrai, Stéphane. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas vrai.
Ça a beaucoup joué.
Mais c'est pas vrai. Et l'équipe à ce moment-là, elle est décevante également par rapport aux joueurs qu'il y a sur le terrain.
Elle est en Coupe d'Europe tous les ans.
Parce qu'il y a eu une régression. Alors tu te dis
ils vivent un peu comme les Verts aujourd'hui. Ils vivent dans le souvenir de cette titre de champion consécutif. Ça c'est extraordinaire, c'est exceptionnel.
Au moment où ça arrive et où en Coupe d'Europe ça se termine comme ça s'était terminé à l'époque contre l'Ajax, ou en championnat où ils finissent quand même à 20 points du PSG. De toute façon, on était déjà dans la normale, sauf que c'était de la normale qui était meilleure que celui d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pas que c'est de la normale. Aujourd'hui c'est carrément un anonymat. C'est terrible. La position au classement de Lyon, c'est terrible. Mmh. Et puis en plus, ils prennent dans la gueule un Aulas qui leur dit il n'y a pas de crise. Et tout va bien, tout le monde travaille bien dans le club. C'est abominable. En fait, c'est un film d'horreur où à chaque fois tu rajoutes des scènes encore plus horribles. Tu sais, c'est Vendredi 13 épisode 1 ou Saw épisode 1, 2, 3, 4, ça s'arrête jamais. Mmh. Mais n'empêche que l'horreur elle a commencé depuis longtemps à Lyon et c'était pas mieux quand il y avait un tel où on a maltraité un tel. Non, la responsabilité c'est pas les supporters, la responsabilité c'est Aulas.
La responsabilité c'est Aulas. Ils avaient des brouillards dans les yeux.
Non,
et que ça les a.
Les gars, tu sais qui a enterré Genesio? C'est pas les supporters, c'est Aulas lui-même. Refais-toi la conférence de presse. Ça devait être
après Rennes.
Exactement.
Le match de Coupe de France contre Rennes.
Où Genesio est à côté, il l'humilie en direct. Il le traite comme un larbin. Moi, ce soir-là, j'ai eu de la peine pour Genesio. C'est pas les supporters les responsables. C'est Aulas qui endort tout le monde depuis des années.
Parce que Aulas, c'est sa fin. Cède ce jour-là à la Vox Populi. Et c'est. Mais c'est pas ça, un grand dirigeant de
comme
club.
Comme il cède quand il prend Juninho, il cède à la Vox Populi.
Mais c'est pas le début de ça.
Juninho acclamé ce soir au stade.
Juninho acclamé au stade.
Le public a pris le parti de Juninho.
Même malgré ce que tu dis sur le fait qu'il se crée des occasions, c'est pas les mêmes matchs.
Juste, depuis tout à l'heure, j'essaie d'en passer une. Deux tirs cadrés à Ajaccio, deux buts. Pour Lyon, ce soir, 28 tirs.
Oui, ok. Non, mais très, très bien.
C'est pour ça que je te disais que c'était pas exactement pareil.
Peut-être. Sauf que Laurent Blanc a pris 15 points sur ses 11 premiers matchs avec l'OL, ce qui est le pire bilan d'un entraîneur avec l'OL depuis Jacques Santini en 2000.
Je peux pas te dire autre chose. Bon,
après, là, il y a des champions après.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quelles que soient les circonstances, là, on est quand même à Lyon face à une équipe de Brest qui n'est pas une des meilleures équipes de Ligue 1, loin de là, même si ça va un peu mieux là sur ces derniers matchs. Ils ont battu Angers la semaine dernière.
Ça les croit, avec eux en championnat.
Ouais, c'est le fameux choc psychologique, etc.
Lui, mais ça marche que partout, sauf à Strasbourg.
Lyon n'arrive pas. Ils ont perdu contre Clermont à domicile. Ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué donc ce soir contre Brest. Ça fait, en fait, cette propension à ne pas réussir contre ces équipes qui sont supposées être plus faibles est vraiment un marqueur fort, puisque Lyon n'arrive plus à imposer son jeu, à imposer quoi que ce soit dans le jeu quand l'équipe en face est présumée plus faible. À l'inverse, Lyon a fait un hold-up contre Lille, contre une équipe qui joue mieux qu'elle, mais contre qui prend le ballon, qui lui laisse en contre, et ils arrivent à s'en sortir comme ça parce qu'il y a aussi un peu de talent. Donc moi, je pense que depuis le choix de l'entraîneur jusqu'au mercato raté, tout effectivement est raté. Ils sont dixièmes au classement. Plus personne ne veut venir à Lyon.
Tu sais ce qui est pire? Ce que tu viens de dire là, ils sont dixièmes au classement. Mmh. Mais le problème, tu sais ce que c'est? Que c'est un vrai dixième. C'est pas un faux dixième. C'est pas un dixième accident. Aujourd'hui, Lyon est dixième derrière Clermont et c'est un vrai dixième du
classement. Ils n'ont pas gagné à domicile en Ligue 1 depuis le mois d'octobre.
Les équipes qui sont devant sont tout simplement toutes meilleures que l'OL. Et ça, c'est absolument terrible. Au moment où le club a été vendu, dans l'année de la vente du club, qui est quand même pas un mince événement, hein, c'est quand même un truc très 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 important. Quand même, Aulas n'est plus le patron officiel du club. Il pourrait se faire sortir demain si John WhatsApp le décidait. dans cette année absolument terrible, où il devait y avoir des évolutions,
ce qui pourrait bien arriver d'ailleurs.
Voilà,
parce que maintenant aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de leviers
pour
redresser Lyon.
Lyon est dixième du classement en Ligue 1 avec un des budgets les plus importants de la Ligue 1. Et Aulas continue de dire qu'il n'y a pas de crise et que tout va bien et que tout le monde a bien travaillé.
Alexis est là au 32-16, supporter lyonnais. Salut, t'étais au stade, Alexis ?
Bonsoir messieurs, ouais, je sors du stade là. Je sors du stade et comme à chaque fois je sors du stade, je me dis mais quand est-ce qu'on va être heureux avec ce club, quoi ? Quand est-ce qu'on va être heureux ? Tu peux faire 3 fois 90 minutes, tu marqueras jamais. J'ai été voir Clermont, j'ai été voir Strasbourg, j'ai été voir Brest ce soir et toujours pareil, quoi. Toujours pareil, c'est la possession, mais devant, il n'y a rien, quoi.
Oui, parce que les derniers matchs à domicile de Lyon, pour aller dans le sens de ce que nous dit notre auditeur, donc match nul contre Brest, défaite contre Strasbourg, défaite contre Clermont, match nul contre Nice, c'était Nice qui à l'époque était aux abois.
Tu joues Clermont, t'enchaînes Strasbourg, tu vas à Ajaccio, tu reçois Brest, tu dis que tu vas te prendre aller peut-être 15 points. Bah non, tu les prends pas. Tu perds deux fois à domicile. Et je pense que vous avez tout résumé juste avant que j'arrive à l'antenne, c'est que le club il va droit dans le mur. Hein. Aulas il est perdu et il nous vend du rêve. C'est.
Comment il a été le joueur qui a failli être transféré au PSG ce soir?
Bah j'en parlais avec vos standardistes. Ryan, je tricote et je fais la passe, je fais un petit geste technique, voilà, je fais du show quoi.
Exactement.
Je fais du chaud.
Ça voilà. Fait beaucoup de gars qui ont failli être transférés au PSG quand même, quand tu fais la liste.
Et le lendemain, on a les photos sur Instagram. Quoi.
Ouais, alors, cela dit, Cherki, c'est tout à fait raison, je suis d'accord sur cette analyse. Mais le pire, c'est que quand il sort, regardez le coaching de Blanc aussi. Parce que l'équipe termine avec des milieux défensifs.
C'est pour justifier le salaire qui fait rentrer Dembélé ?
Il n'y a plus que des attaquants et des milieux à vocation défensive. C'est-à-dire que
Dembélé remplace Barcola.
Ouais, qui est la bonne surprise.
Homme du match ce soir.
Pardon ?
Barcola, homme du match ce soir.
Mais Barcola, c'est un des meilleurs jeunes. Il faut savoir que Blanc ne voulait pas. Il a demandé des joueurs d'expérience dans le recrutement. Il freine des quatre fers avant de titulariser. Barcola s'est imposé au forceps sur des bouts de match. Mais, il a vu qu'il était bon. Il est obligé quasiment de le mettre maintenant.
Messieurs, vous le savez comme moi, le problème, il n'y a pas d'entraîneur. Ça fait des années à Lyon qu'on crache sur l'entraîneur. On a craché sur Genesio, on a craché sur Bosch. Là, on crache sur Laurent Blanc. Mais au bout d'un moment, le vrai problème, ça vient d'en haut. C'est tous ces mercenaires là qui sont là au club, qui sont bien au chaud dans leur loge les jours de match. Et je sais pas ce qu'ils font. Mercato, t'as besoin d'un 6, tu le recrutes même pas. Je comprends pas. Et Olas nous a dit qu'ils allaient casser sa tirelire pour un milieu de terrain défensif. Et au final, un mois de mercato, rien. Enfin.
Ils l'ont pas trouvé. Le gars du Rayo Vallecano dont on parlait hier est pas venu. Aouar devait partir à la Roma. Il a refusé la Roma, Oussama Aouar.
Moi, je trouve ça fou.
Il a quand même refusé la Roma parce qu'il a été prévenu trop tard et qu'il a pas eu le temps de se préparer.
Messieurs, Aouar à l'échauffement, c'est le mec qui tire une tête de 6 pieds de long. Enfin, t'as les mecs, tu sais, même Dembélé, il rentre, il joue 3 minutes, il se fait siffler. Mais pourquoi tu fais rentrer Dembélé?
Dembélé, il n'a pas voulu partir parce qu'il attend la fin. Il y avait Everton, Southampton qui voulait l'acheter, il n'a pas voulu.
Ça vient de la direction. C'est des contrats qui sont mal gérés. C'est des investissements qui sont faits n'importe comment. Et le club, on est 10e, on a notre place. Comme vous avez dit, on a notre place. T'as des équipes qui n'avaient pas auparavant, comme Rennes, comme Lens, qui jouent au ballon. C'est normal qu'on soit 10e.
C'est vrai qu'Aouar, il y avait la Roma, mais il y avait aussi Manchester. Manchester United, ça s'est intéressé. Donc Aouar,
c'était beaucoup plus net pour la Roma, mais Manchester était dessus.
Tout ça pour prendre un chèque.
Manchester United.
Vous savez quoi, je
te garantis que c'est vrai.
Non, c'est vrai, Stéphane.
Ah, c'est une information.
Ça redevient à peu près cohérent ce que fait Manchester United.
Attention,
à 2-3-0 près.
Il est choqué, Stéphane.
Ah oui, Aouar au Manchester United. Là, le Aouar d'aujourd'hui à Manchester United. Alençon, oui, tu me dirais Alençon est sur Aouar. Je dirais, c'est une bonne idée.
Il a refusé aussi, figure-toi.
Président Bansard, prenez-nous Aouar pour la fin de saison.
Bansard, il s'appelle
Nicolas Bansard.
Comme l'ophtalmo. Incroyable.
Quel ophtalmo?
L'ophtalmo,
Bansard.
Enfin, Ben Saïd, quoi.
Ouais.
Je suis totalement perdu là.
Contrat, c'est pas grave. Une référence à un grand film.
Ah pardon. Je l'ai pas vu celui-là.
C'est génial. Je suis sûr que tu l'as vu en plus.
Ah bon, c'est quoi comme film? Bansard, Ben Saïd.
Vérité si je mens.
Bah oui, j'ai dû le voir. J'ai vu le premier.
C'est Lukaku qui dit ça.
D'accord.
Dans le premier.
Ah ben je m'en rappelais, j'ai pas vu.
Juste sur Lyon quand même, et par rapport à toutes ces équipes dont on avait dit qu'elles avaient du temps avec la Coupe du Monde, faut voir le délai qu'il y a eu. On s'était dit, il y a la Coupe du Monde, plus là maintenant, tu vois, le temps qui a passé avec le mercato qui est au 31 janvier, ça te laisse, allez, deux bons mois pour travailler, enfin pour restructurer un effectif. On avait dit que c'était ce qui allait se passer à Lyon, et au final. Tu arrives à la fin du mercato en lambeaux, est incapable de battre là dans ce laps de temps d'ailleurs, de perdre contre Clermont à domicile, de pas marquer une action dans le jeu, de faire 0-0 contre Brest. Très franchement, ils étaient quand même sur un 6, c'est pas un peu comme le PSG. Ils n'ont donc pas réussi à trouver un milieu, un 6 sur toute la durée du mercato. Et c'est Lyon aussi, tu vois, c'est pas non plus. Même s'ils sont 10e aujourd'hui, ça reste.
C'est d'autant plus étonnant que ça démarre le 1er janvier par le Vren. Donc tu te dis, tiens, ça y est, ils sont en ordre de marche, ils vont nous sortir des. Et puis effectivement, après, c'est une vallée de larmes. À moins que les deux joueurs qui arrivent, là, les deux offensifs, qui se révèlent être des talents, mais on verra.
Je remercie Alexis au 32-16 et puis je renvoie au podcast After Lyon, où Edouard G notamment qui était là comme toujours a fait un bilan mercato avec plein d'infos supplémentaires. Donc n'hésitez pas à télécharger les podcasts club. Allez, on enchaîne, il nous reste un quart d'heure ensemble, les gars, parlons de Lille. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours on disait mais ils n'arrivent pas à marquer, il y a quand même un problème. Et là qu'est-ce qui se passe ce soir? Pareil.
Rebelote.
Exactement. Donc, est-ce que Lille devient aussi petit à petit une équipe anonyme, les gars ?
Alors là, je reprends l'expression de Flo tout à l'heure, c'est toujours pareil. Là, pour le coup, c'est vraiment toujours pareil. Là, mais ça fait au moins deux afters d'après-match où on a vu Lille. Là, moi, je ne sais plus quoi dire sur eux. Parce que, regarde le nombre d'occasions qu'ils ont, le nombre de tirs. Qu'il y ait des absents, pas d'absents. Là, c'est Jonathan David qui n'est pas. Enfin, c'est pareil. C'est toujours pareil. Ils dominent les matchs, ils ont les occasions, ils sont pas foutus de mettre des buts et ils gagnent pas les matchs. Bon bah au bout d'un moment, tu rentres dans le rang et puis c'est fini, ils vont faire une saison à la Lyon en mieux. Mmh. Et à un moment faut marquer quoi, tu vois.
Là, je suis un peu surpris quand même parce que pour le coup la grosse différence de Lyon, il y avait des certitudes, une qualité de jeu qu'on a loué. D'ailleurs.
Ah, c'est sûr qu'il y a une vraie qualité de jeu, ouais, elle est là, ouais, la grande différence de Lyon.
Ce soir, ils se créent des occasions certes. Mais c'est vrai qu'en perdant leur joueur à droit devant, t'as l'impression qu'ils ont perdu un petit peu toutes leurs possibilités de marquer. C'est étonnant parce que là, il y avait beaucoup plus de certitudes, je les voyais plus haut. À noter quand même.
Oui, mais vous avez.
À regarder qu'un adversaire quand même en face. Et que cet adversaire-là, pour avoir vu maintenant Reims là, dans un style différent, puisqu'ils sont encore plus offensifs, c'est un des adversaires qui est le plus compliqué à jouer défensivement, clairement. Ouais, très, très compliqué, tu regarderas sur leurs résultats. C'est même plus le Gastien qui, entre guillemets, dit je vais m'en sortir par le jeu. Non, c'est beaucoup plus pragmatique et très, très compliqué. Alors, ça excuse peut-être pas tout pour Lille, mais je trouve que faut pas se dire quand tu vas jouer Clermont que tu vas te balader et que normalement tu vas t'en sortir. C'est une équipe ultra compliquée à jouer.
Rien à rajouter sur Lille, les gars ?
Non.
Très bien.
Non, mais sauf une évidence, c'est que ils ont 35 points, donc ils sont dans le coup. Voilà, c'est pas non plus. On est à la 28e journée, hein, tranquille. On n'est pas en train de distribuer déjà le classement final. C'est très très long encore.
C'est vrai. Allez, Reims, les gars. Alors que sur Direct Studio, on me réclame le président Bansard dans l'after. Donc on va peut-être organiser sa venue au président Bansard, le président d'Alençon.
Ah, le président d'Alençon.
Ouais. Ça, on pourrait demander directement.
Bansard, l'ophtalmo.
Ouais, il n'est pas ophtalmo, président Bansard.
Non, pas du tout.
D'accord. Reims, écoutez Will Steele qui parle de Balogun. Il a encore été étincelant.
Meilleur buteur de Ligue 1.
Balogun
est le meilleur buteur de Ligue 1 devant Mbappé aujourd'hui.
14 ouais. buts.
C'est quand même c'est énorme ça. Qui aurait misé ça? Personne ne connaissait déjà Balogun, à part ceux qui suivent un tout petit peu le foot anglais. C'est
prêté,
colossal.
Hein, rappelons ouais,
remplaçant d'équitiqué, hein. C'est recruté pour ça.
Exactement. Bah bonne pioche.
Et autant de
écoutez, Will Steele,
triplé. Et Steele, un sacré triplé. Hein,
Will Steele a encensé Balogun pendant 3 minutes, mais on a choisi de vous passer la fin de son analyse.
Normalement, son pied gauche, il est éclaté. Et là, il arrive à la reprendre plat du pied, il la met de petit filet. Donc, non, c'est bon, chapeau à lui.
Voilà. Il dit normalement son pied gauche il est éclaté. Et là, voilà.
Bon, non, mais alors, c'est énorme. Moi, ce que je trouve sur la terrain, c'est énorme parce que on attendait tous ce match-là pour voir s'ils étaient capables ou non de confirmer ce qu'ils avaient fait à Paris 3 jours avant. Ils ont quitté le parc sous les éloges. Ils en ont profité un maximum et ils ont eu raison. Ils ont dit, Abdelhamid a fait des déclarations qui ont nourri le débat sur le PSG pendant quelques jours, etc. Donc ils étaient attendus au coin du bois comme des bienheureux.
D'ailleurs, ils démarrent très mal.
Et ils sont menés 2-0.
Le post-Parc des Princes, retour d'acide.
Exactement. Et ils trouvent les ressources, pour renverser le jeu, marquer 4 buts, le triplé. Non, c'est vraiment énorme. Mais ça fait une série de, je sais pas, 11 matchs, 12 match maintenant pour Steele sans connaître la défaite, c'est sensationnel vraiment.
22 occasions, 31 tirs, 9 cadrés
pour Reims
avec un mauvais début.
Match spectaculaire.
Alors que Reims, moi, ce qui m'avait vraiment frappé ces derniers temps, j'avais dit dimanche, la solidité défensive de cette équipe-là. Bon, là, ils en prennent deux, et derrière, c'est festival offensif.
Ouais, mais ce qu'il faut noter, c'est ils sont redevenus solides, mais c'est à quel point Steele a changé le visage de l'équipe, mais même tactiquement et dans les intentions de jeu, en aussi peu de temps. Quand on dit qu'il faut toujours énormément de temps pour mettre en place une animation offensive et tout simplement changer l'intention de jeu de l'équipe, lui, il a fait ça très vite. Alors, il était l'adjoint.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il part pas d'un village blanc.
Il avait des idées, mais Garcia n'arrivait pas à mettre en place. Il ne tenait pas l'équipe. Bon, Garcia avait des problèmes perso très graves dans sa vie, qui ont fait aussi qu'il a quitté le club. Lui, Steele, il connaissait très bien le groupe et lui avait d'autres idées. il faisait son taf de second, mais il avait d'autres idées. Il pensait qu'on pouvait faire autre chose avec cette équipe-là. Résultat, quand Garcia a été sorti, Steele, très vite en prenant l'équipe, a mis ses idées en place et le groupe a adhéré immédiatement. Donc lui avait les idées claires sur ce qu'il aurait pu faire si on lui donnait l'équipe. Et l'équipe, on a fini par lui donner. Et c'est incroyable comme très vite il a pu mettre toutes ses idées en place, quoi.
Et alors, ce qui était assez étonnant dans ce match, que j'ai bien regardé, c'est que ils étaient menés. Tout de suite, bon, ils reviennent dans le jeu avec l'idée d'attaquer et de prendre le jeu à leur compte. Et au début de la deuxième période, ce que je disais tout à l'heure, on a vu un Lorient qui immédiatement a accepté ou a été contraint par la puissance, l'intensité rémoise à se mettre dans ses 25 mètres. Et je me suis dit, c'est pas possible. On joue la 46e, 47e, 48e. Et tu voyais déjà Reims faire une sorte d'attaque-défense en mode coupe pour aller contre Lorient. Alors, il y a deux choses à ça. Il y a style, cette envie et cette propension. On l'a vu d'ailleurs aussi contre le PSG avec des plans larges assez étonnants où on voyait que toute l'équipe de Reims était dans le camp du PSG. À tel point d'ailleurs que des balles longues de Ramos ou autres auraient pu plomber complètement ce plan de jeu. Mais bon, c'est un risque, il y a une prise de risque qui était assumée. Mais il faut reconnaître aussi quand même, pour parler de Lorient, que cette équipe-là, décapitée au mercato, va avoir un petit peu de temps.
Ça commence à se voir, tu veux dire?
Ah, bah, c'est bien sûr. Attends, c'est compliqué quand même.
Quand ils ont mené 2-0, j'ai eu la pensée inverse.
Oui, mais d'accord.
C'est incroyable.
Ouais, mais
faudra voir. On leur a pris des joueurs, oui. Ils sont capables de se relancer immédiatement.
Sauf que quand je te dis que tu vois cette deuxième période, dès le début de la deuxième période, où tu vois cette équipe qui n'a pas cette habitude-là, cantonnée dans ses 20 mètres, je ne peux pas m'empêcher de penser que, défensivement d'ailleurs, et pas seulement, cette équipe-là qui a. Enfin, comment veux-tu, ça c'est quand même le foot d'aujourd'hui, tu construis un truc de dingue qui est encensé par tout le monde, je parle du travail de Régis Lebris. Et t'arrives à la moitié de la saison, on te fait exploser un peu tout ça. Excuse-moi, c'est pas simple. Donc certes, Reims, on en a parlé et c'est mérité. Et Steele a totalement révolutionné cette équipe, qui dans l'envie déjà est un modèle. Le match était bien, le scénario sensationnel. Balogun est un joueur formidable. Mais j'insiste quand même, c'est dur pour des supporters de voir le travail que fait Lebris, de monter tout ça et de te faire couper en deux pendant le mercato d'hiver et éventuellement maintenant d'avoir des résultats un peu en dents de scie parce que faut reconstruire quelque chose. Il va y arriver Lebris parce que il est bon, il est intelligent.
Ils ont racheté des joueurs aussi, ils ont pas fait que vendre.
Non, mais
ils ont utilisé un petit peu de la somme, mais bon, ça c'est l'économie et de la Ligue 1. Hein.
Ouais, mais ils ont perdu gros quand même.
Minute 23, encore 7 minutes ensemble, les gars. Oui.
Non, ça c'est un bon débat, Lorient, parce que ils ont perdu gros, oui, mais bon, ils auraient fini quoi, 8e, 7e, 8e de Ligue 1, ils vont peut-être finir 12e parce que bon, ça va pas, ça va, et ils ont peut-être gagné 2-3 ans de pérennité budgétaire.
Ah ouais,
non, si mais... c'est bien géré, je ne sais pas si c'est bien géré ou pas, mais bon, voilà, c'est la problématique de ces clubs. Hein.
On va dire un mot de Toulouse, les gars, avec Steve qui nous écoute depuis un moment.
Juste, pardon, Gilbert, je fais un parallèle avec ce qu'on a vu, parce qu'on avait tout à l'heure sur RMC Sport, le match n'est peut-être pas terminé ici entre le Sporting du Portugal et Braga.
Sporting a gagné 5-0 d'ailleurs.
Voilà, Braga, c'est toujours une équipe surprenante qui sort des joueurs. Paf, là, ils avaient un attaquant, il est vendu à l'OM, et puis derrière, effectivement, ils prennent 5-0 le match d'après contre le Sporting. Quoi.
Steve, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté.
Ouais, mais il y a pas de souci. J'étais avec deux amis, donc j'ai pu attendre, même si c'est en semaine et que les horaires des matchs sont un petit peu différents. On s'adapte.
Ton accent donc, te trahit. Tu étais au stade à Toulouse.
Exactement, c'est ça. J'étais au stadium ce soir. Ben, comme
tu t'es régalé.
Saison. Comment?
Tu t'es régalé. Ça avait l'air d'être un match sympa.
Ah ouais. Franchement, je me suis régalé. Mais en fait, c'est vrai que cette année au stadium, je me régale quand même quasiment à tous les matchs. Il y a beaucoup de Ouais, c'est vrai que on est en Ligue 1, mais malgré tout, comme la Ligue 2, on arrive à avoir des matchs vraiment à but, à spectacle, et puis une équipe qui perd pas trop à domicile, à part contre Monaco et contre Paris, quoi.
Ouais, et puis en plus, j'ai retrouvé un vrai public.
Ouais, et ça fait plaisir. C'est vrai que moi, je fais partie du virage Brice, et c'est vrai que il est complet tous les matchs, quoi. Donc ça fait plaisir. Il y a une vraie ferveur, une vraie ambiance, et du coup, on essaye d'être là tout le temps et de soutenir le club parce qu'ils font les choses bien, tout simplement.
T'as envie de dire un truc sur Toulouse, les gars?
Non, mais ça, parce que y a pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que peut attendre un supporter de Toulouse à part le maintien de son équipe quand il y a des promus comme ça,
Stéphane.
C'est de se dire, on prend du plaisir à aller au match.
Mais pendant des années, ça a été mon discours dans l'after. Je disais, mais toutes ces équipes qui n'ont rien à jouer,
c'est ça. Ouais.
Si elles veulent que les supporters viennent au stade. Ouais. Il faut leur proposer quelque chose, leur raconter une histoire, ouais. proposer du jeu.
Daniel,
et pendant combien d'années on s'est fait chier à regarder tous les matchs avec les équipes du milieu de tableau. Aujourd'hui, la grande majorité des équipes de Ligue 1 proposent du jeu ou essayent d'être entreprenante au minimum. Alors que pendant des années, des soirées d'after, on constatait que 80-90% des équipes ne jouaient pas. Ces entraîneurs-là, c'est terminé. Cette année, on a des révélations. Bon, Toulouse, on le savait dès le début.
C'est intéressant parce que tu vois, le cas de Toulouse est intéressant, Daniel, pourquoi? Parce que c'est Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse.
C'est
Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, qui a certaines époques de sa carrière d'entraîneur. Moi, je défends toujours les entraîneurs parce que les entraîneurs ne sont pas identiques du point A au point B, ils font pas toute leur carrière sur le même tempo. Montagnier, il y a eu des époques où il a eu des équipes ennuyeuses. Et on était, le Montagnier à Rennes, je me souviens de débats autour du Montagnier à Rennes qui voulait pas aligner machin, etc. Bon, et ben le même Montagnier, ce qui montre bien que c'est une affaire d'environnement, d'effectifs, de rapport à ses dirigeants, enfin de je sais pas, de, peut-être aussi soi-même d'envie,
c'est juste la direction,
de remise en cause,
c'est juste
etc.
La direction, c'est le cas à Toulouse, c'est par exemple également le cas à Troyes. La direction dit, nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle, et nous te soutiendrons tant que tu proposeras ça. Ouais. C'est clair, c'est net, c'est un message. C'est le message de Comoli, des propriétaires. Le recrutement est fait en ce sens. Tu nous donnes du spectacle. À trois, c'est encore plus que ça, puisque carrément, c'est la philosophie du groupe en entier. Voilà. Il y a maintenant des directions qui ont compris que le foot devait être envisagé de cette façon. C'est plutôt positif pour nous et pour notre championnat.
Et par contre, ça nous amène sur un autre débat qu'on va pas mener à 0h27, mais de pas confondre non plus le niveau du championnat et spectacularité de notre championnat, qui est un championnat cette année spectaculaire. Moi, je doute malgré tout qu'il soit d'un très bon niveau.
Les jeudis soirs.
Steve, vu que c'est la première fois que tu passes dans l'after, on va t'offrir notre magnifique maillot de l'after, presque aussi beau que celui de Toulouse, plus beau, fait par nos amis de Kappa.
Ils ont fait un troisième maillot cette année, le teuf qui est plutôt joli aussi. Je sais pas si vous l'avez vu.
On n'est pas fan du troisième maillot, non. Et des quatrièmes encore moins.
Qu'ils en fassent un, c'est pas grave, et qu'ils le mettent pas que tu joues à domicile, quoi.
Et là, t'as le premier maillot de l'after, là. Donc,
ouais, ça, c'est cool.
Le maillot
c'est
first.
Super sympa.
En même temps, on en a pas de deuxième.
Ouais, il n'y a pas de deuxième.
Salut Steve, bonne soirée. Les gars, c'est quasiment terminé. Il nous reste 1 minute 30. J'ai quand même 2-3 infos encore à vous donner. Alors, Souleymana est parti hier. On disait, rappelez-vous, à Mignon, c'était pas encore été officialisé.
On avait des gens qui étaient prêts à l'accompagner à la gare.
À Aquitaine, 25 millions quand même pour Souleymana qui joue.
Très, très belle affaire.
Belle affaire.
Très, très belle affaire.
Année, qui ont aussi recruté le jeune Ibrahim Salah, international marocain des U23 qui arrive.
Et Souleymana, ils l'ont mis où?
Et puis à Southampton.
Ah oui.
Et puis l'histoire du jour, hier on vous parlait du passeport du directeur sportif de Bordeaux, Admar Lopez, qu'il a perdu, qui l'a empêché de faire un transfert. L'autre histoire du jour, c'est Pavlovic, le défenseur central, rappelez-vous, qui avait déjà joué en France, notamment à Angers.
Il avait de bons réflexes.
Et bien lui, il est venu en bagnole de Croatie pour signer à Saint-Etienne. Il fallait qu'il arrive en 23h, 10 heures de voiture. Il est arrivé cric-crac, comme dirait Laurent Blanc.
Il n'y avait pas un avion.
C'est ça les footballeurs des deux. Hein. Tu prends la bagnole, hein. On peut tous des jets privés. Hein. Voilà, 10 heures de bagnole, il est arrivé à l'heure, il a pu signer. Voilà, Pavlovic.
Motivé,
exactement, bravo. Et puis c'est tout. Et puis demain, Rongier quand même, avant qu'on parte, écoutez juste Rongier, parce qu'il a parlé de ce qu'a fait Unai sur son but, et il y a un truc à décrypter parce que j'ai pas tout compris. On écoute.
C'est du hich-hich. C'est un but, c'est magnifique, il a fait un très bel exploit, et ce but nous a fait beaucoup de bien, voilà, on l'a félicité, et j'espère qu'il va nous en mettre beaucoup d'autres comme ça.
Donc c'est du hich-hich. Si vous avez une explication.
Pas du tout.
On va chercher.
On va chercher du côté du bled.
Demain.
Il a des petits accents lisarasiens, Rongier.
Ah bon ?
On la voit.
Merci Stéphane, merci Florent. Salut. Merci Daniel. Demain, soyez bien à l'écoute. Émission surprise dans un lieu surprenant. Vous verrez demain soir à 22h dans l'after. Soyez au rendez-vous demain soir. Bonne nuit à tous.